Francine, normalement, on était toujours enthousiaste de dire on s'en va aux États-Unis. Mais là, un petit peu moins.
C'est tout à fait la même chose, hein?
Ben, je sais pas, mais moi, Marcel, j'ai compris ça. J'ai lu une nouvelle ce matin, puis j'ai compris. Bon, la nouvelle, en fait, elle portait sur le fait qu'il y a des gens qui ont signé une pétition pour acheter la Californie. En fait, des gens qui sont associés au Groenland, ils vivent ou ils soutiennent le Groenland. Donc, nous, j'ai pensé que vous vouliez qu'on parte un mouvement pour aller acheter des villes aux États-Unis qui ont des noms francophones.
Ben, j'avais pas pensé à ça, mais c'est pas bête du tout.
Bon,
Évidemment,
alors, on part le
on vient de
mouvement,
partir quelque
puis
chose.
on va vous écouter.
Évidemment, il faudra mettre nos ressources ensemble, toutes nos
Oui.
énormes fortunes personnelles à chaque
Exactement,
fois.
exactement. On va
Ça
mettre
va
ça
être
en
impressionnant.
garantie. Là, on va mettre ça en garantie. De toute façon, vous savez, le dollar vaut plus grand-chose. Puis la
Bon,
bourse, si ça continue, ben, on n'aura plus
fait qu'il va
grand-chose.
nous rester une petite partie du Rhode Island quelque part,
Oui, mais
là.
on va acheter des villes. Allez-y,
Voilà,
allez-y,
on est mieux
Marcel.
d'investir dans l'immobilier. Ben, voilà, vous le disiez, en ces temps de tension canado-américaine, on a tendance à oublier l'histoire commune qu'on partage avec les Américains, tout particulièrement de notre point de vue, nous qui sommes d'expression française. La France a contrôlé une grande partie des États-Unis actuels au 18e siècle. Il y a des centaines de milliers de Canadiens français qui sont allés se fondre dans le melting pot américain au 19e et au début du 20e siècle. Et ce grand pays a été exploré dans tous les sens par des Français et des Canadiens français qui ont laissé des traces de leur passage, notamment dans la toponymie. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est un voyage dans ces États-Unis français d'Amérique. Pas mal la seule manière de voyager aux États-Unis en ce moment qui ne vous vaudra pas de commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. On va passer de lieu en lieu qui porte des noms français ou, si vous préférez, qui porte des noms allègrement massacrés au jour le jour par les Anglo-Américains. Évidemment, je pourrais commencer dans l'État du Vermont et sa capitale Montpellier, nommée par des Américains en l'honneur de la ville de Montpellier en France. C'était à l'époque de la Révolution américaine. La France avait aidé les colons américains dans leur lutte pour l'indépendance et ce qui était français avait la cote. Mais c'est trop facile. J'ai plutôt envie d'aller vers le Midwest, vers l'ouest du pays. Et
Oh.
on commence dans le Missouri, un État dont les racines françaises sont assez évidentes. Sa capitale a été fondée par trois Français, Gilbert-Antoine de Saint-Maxent, Pierre Laclède et son beau-fils Auguste Chouteau, qui avait 14 ou 15 ans au moment de la fondation. S'il n'est pas le plus jeune fondateur d'une ville majeure, il doit être tout près du sommet du classement. La ville porte le nom de Saint-Louis en l'honneur du roi de France, Louis IX, à ne pas confondre avec Louisville, métropole du Kentucky, qui rappelle le souvenir de Louis XVI de France et non de Louis IX. Mais plus intéressant encore, il y a une ville de la région de Saint-Louis qui s'appelle Crèvecœur, ou en américain, ça devient Crèvecoeur. La ville tire son nom du lac Crèvecœur, qui aurait un peu la forme d'un cœur, et selon la légende, le lac aurait pris cette forme-là après qu'une autochtone qui venait d'être éconduite par un coureur des bois français se soit jetée dans le lac par désespoir. Et à défaut de prononcer le nom de la ville d'une manière qui rappelle ce que ça signifie, le drapeau municipal est très bien fait à ce niveau-là. On y retrouve trois fleurs de lys françaises et un cœur brisé. Ça, je vous avoue que c'est la première fois que je vois ça sur un drapeau. Je suis pas convaincu que ça respecte les règles de l'héraldique, par contre. Dirigeons-nous vers l'Iowa, État dont, puisqu'on est sur la question des drapeaux, le drapeau de l'État, c'est un tricolore français sur lequel on retrouve aussi un aigle américain. Et de sa capitale, des moines, comme les gens qui vivent dans un monastère, localement, on appelle ça de moines. Et c'est une drôle de construction, des moines. On n'a pas l'habitude de nommer des lieux de pareille manière. Mais la ville doit son nom à un fort des moines qui lui-même doit son nom à une rivière qui traverse l'État de part en part. Ça, c'est une construction plus logique, n'est-ce pas? La rivière des moines, comme on a la rivière des prairies, la rivière des mille-îles, la rivière du Loup, etc. On n'est pas certain quels moines les Français qui ont baptisé la rivière au 18e siècle voulaient honorer. Il se peut aussi que ce soit une déformation du nom qu'on donnait à un sous-groupe de la Confédération des Illinois qui vivait dans la vallée du Mississippi. Illinois, incidemment, autre nom donné par les Français qui est entré dans la toponymie américaine. Ça se prononce beaucoup mieux dans notre langue que dans la leur, Illinois versus Illinois. Mais pour en revenir à nos moines, l'armée américaine a construit en 1843 un fort à la confluence de la rivière des moines et de la rivière Raccoon, donc la rivière du raton laveur. Le commandant de la place voulait nommer le fort Fort Raccoon, mais le haut commandement trouvait peut-être que ça faisait pas très sérieux. d'autant plus que le fort avait une tâche importante à remplir, assurer la répression des Premières Nations qui vivaient dans la région, les Sauk et les Meskwakis tout spécialement. On a donc opté pour Fort des Moines. 3 ans après la construction, on a tout simplement, c'était chose assez courante à l'époque, chassé les Premières Nations des alentours. On les a déplacés plus loin de la civilisation blanche. Le fort n'avait plus sa raison d'être, mais c'est sur ce site que la ville a commencé à se développer. On a appelé la ville Fort des Moines au départ, avant d'abréger ça tout simplement à des Moines. Montons vers le nord-est, dans l'État du Wisconsin. On retrouve plusieurs villes qui ont des noms légués par des explorateurs et des colonisateurs français, notamment Prairie du Chien. Et ça, je ne peux pas vous dire comment les Anglo-Américains se débrouillent avec ça, mal fort probablement.
Oh, s'il vous plaît.
Mais c'est tout petit, Prairie du Chien. Par contre, comparativement à une autre ville située à proximité qui s'appelle La Crosse, comme le nom qu'on a donné au sport pratiqué par les Autochtones à l'arrivée des Européens, et c'est en l'honneur du sport que la ville est baptisée.
Mais Prairie du Chien, là, vous pouvez pas vous essayer un peu, non?
Ben, en fait, c'est que je l'ai jamais entendu prononcer. Ah. C'est ça l'affaire. Comme dans Creve Coeur, j'ai entendu des Américains le dire, mais Prairie du Chien, ça, j'ai pas d'expérience par rapport à ça. Et pour en revenir à la ville de La Crosse, incidemment, ce serait Jean de Brébeuf. Le Jean de Brébeuf, martyr canadien, l'homme du collège, de la rue, des différentes paroisses à travers le Québec, qui aurait donné son nom européen au sport que les Premières Nations appelaient de plusieurs différentes manières dans leur langue locale. On se déplace vers l'ouest, on traverse le Minnesota, où on retrouve notamment un comté qui s'appelle Lac qui parle, en l'honneur d'un lac nommé Lac qui parle, et on a une ville de Faribault, qui doit son nom à un coureur des bois originaire de Berthier, sur la rive nord du Saint-Laurent, Jean-Baptiste Faribault, ou du fils qu'il aurait eu avec une femme de la nation Dakota. On n'est pas exactement certain. Mais je vais aller plus à l'ouest. On retrouve 2 États qui ont, eux aussi, des capitales portant des noms en langue de Molière. La capitale du Dakota du Sud s'appelle Pierre, et celle de l'Idaho se nomme Boise, ou Boise en anglais, voilà. On ne connaît pas l'origine exacte du nom Boisé. L'explication qui semble la plus probable, c'est que ça venait de commerçants de fourrures canadiens-français qui travaillaient pour la Compagnie de la baie du Tusson au 19e siècle et qui avaient remarqué la vallée verdoyante d'une rivière qu'ils auraient nommée la rivière Boisé, à laquelle la ville doit son nom. Boisé, incidemment, se nomme elle-même la ville des arbres, ce qui me semble logique quand on s'appelle Boisé. Et incidemment, dans le même bassin hydrographique où on retrouve la rivière Boisé, on a une rivière Payette, nommée d'après un coureur des bois montréalais, et ancêtre de Julie Payette, semble-t-il, et une rivière Malheur, ainsi baptisée parce que des trappeurs francophones qui s'étaient fait voler leur pelleterie entreposée dans le secteur l'avaient appelée comme ça. Les anglophones lui ont donné à une certaine période le nom de Unfortunate River, ce que je trouve plutôt amusant, mais le nom Malheur River demeure à ce jour. On trouve toutes sortes de merveilles quand on parcourt la carte comme ça. J'étais sur Google Maps, je me promenais, je suis tombé sur une municipalité du Montana qui s'appelle tout simplement Froid, F-R-O-I-D. Est-ce que les explorateurs de langue française sont passés là en plein hiver, se sont gelés bien comme il faut? On n'a pas de détails, mais ça s'appelle Froid et ça non plus, je ne l'ai jamais entendu prononcer. Ça doit être assez compliqué à dire. Il y a aussi la rivière Platte et ses affluents, les rivières Platte du Nord et du Sud, c'est dans le Nebraska. Un explorateur français, il s'appelait Étienne de Vignard, sœur de Bourgmont, lui avait donné le nom d'Eau Plate en langue des Otoé, le premier peuple qui vivait dans la région. Avec le temps, les Français lui ont substitué le nom de rivière Platte, nom qui est resté jusqu'à aujourd'hui, mais on y met 2 T, par contre, plutôt que juste 1 T, comme Platte, comme on le fait normalement en français. Et évidemment, je ne peux pas terminer un exercice comme celui-là sans vous parler d'une montagne qui s'élève à plus de 4000 mètres dans l'ouest du Wyoming, près de la frontière avec l'Idaho. J'ai nommé le Grand Teton, le Grand Teton, comme les Américains l'appellent. Eh bien oui, on ne peut que présumer de l'origine de ce toponyme-là. Des explorateurs canadiens-français ou possiblement des Haudenosaunee francophones sont passés dans le secteur. Il pensait de toute évidence à autre chose. Et c'est ce qui fait qu'on a le Grand Teton, une chaîne de montagnes qui s'appelle le Teton Mountain Range et le parc national de Grand Teton, de Grand Teton, qui couvre 1300 km² et attire près de 3 millions de visiteurs au cours d'une année. Et là, ce ne sont que quelques-uns des différents noms. J'aurais pu jouer à ça pendant des heures et des heures parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais ce sont quelques-unes des traces que les Français et les Canadiens français ont laissées dans la géographie américaine.
Dites-moi, Marcel, est-ce que y a une raison pour laquelle on a toujours conservé ces noms-là? Parce que souvent, on va avoir tendance à changer les noms de certaines localisations.
Ça, il n'y a probablement pas de réponse précise à ça. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de noms donnés en français qui ont été traduits souvent sans aller voir pour chacun. On voit un nom d'un lac, d'une rivière comme ça, on se dit, ça, c'est pas impossible que ça ait été nommé en français, que ça ait été traduit directement. Pourquoi certains ont été changés, pourquoi d'autres sont restés? Bon, c'est vraiment une question d'usage. Je vous disais tout à l'heure, la Unfortunate River, probablement qu'on aurait pu garder une certaine version de ça, mais finalement, la rivière Malheur s'est imposée. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. C'est juste, c'est entré dans les mœurs. On a continué à l'utiliser sans trop savoir pourquoi. Ça varie vraiment d'un cas à l'autre, je vous dirais.
Bien, c'est bien, parce que ça conserve une trace, finalement. Oui, Yvan?
C'est pour Marcel. Il y a Mathieu qui a trouvé une traduction.
J'ai entendu sur deux vidéos « Prairie Duchesne ».
Ah, bon.
C'est pas très loin de Prairie du Chien.
C'est le mieux qu'ils peuvent faire, malheureusement. C'est difficile, les langues étrangères.
Oui, c'est pas toujours facile, effectivement. Oui, mais maintenant, on a des outils qui nous permettent d'entendre au moins la prononciation. C'est déjà ça, c'est très utile. Bien, merci beaucoup, Marcel. Et puis, on va se reparler la semaine prochaine. Et puis, peut-être qu'éventuellement, vous pourrez nous faire un petit volet 2, parce que s'il y en a d'autres, c'est intéressant d'entendre ça. Mm-hmm. Et on pourra, à ce moment-là, cibler lesquels on veut vraiment annexer.
Bah, c'est une bonne idée, ça. Je me mets au travail là-dessus.
Merci, bon week-end.
À la semaine prochaine.